Voici Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha. Le débat.
Bonjour et merci d'être à l'écoute de votre émission hebdomadaire d'analyse de l'actualité africaine. Dans 5 semaines, les Congolais iront aux urnes élire leur nouveau chef d'État et ils sont 8 candidats déclarés. Lundi, la Direction générale des affaires électorales a clôturé l'opération d'enregistrement des dossiers de candidature pour le scrutin prévu le 21 mars prochain et pour lequel le président sortant, Denis Sassou Nguesso, est en lice. Des inquiétudes ont été exprimées autour de cette élection, l'inclusivité, la transparence. La semaine dernière, l'épiscopat congolais a donné de la voix. La présidentielle du 21 mars prochain sera-t-elle moins contestée que les précédentes? Analyse dans votre émission. Au Mali, la rencontre mercredi entre le Premier ministre de la Transition, Mokhtar Ouane, et la classe politique, la première depuis sa nomination, va-t-elle contribuer à décrisper l'atmosphère et à détendre les relations jusque-là difficiles entre les deux camps? Les deux parties ont discuté notamment des conditions d'organisation des élections qui doivent mettre un terme à la transition. Classe politique et responsable de la transition au Mali parlent-ils désormais le même langage ou des nuages subsistent-ils entre les deux parties? On le verra dans le débat. Enfin, au Sénégal, alors que le débat politique est dominé depuis le début de la semaine par la possible levée de l'immunité parlementaire du leader de l'opposition Ousmane Sonko, sa région d'origine, la Casamance, dans le sud du pays, a également été au centre de l'actualité. L'armée qui a lancé une vaste offensive depuis le mois dernier contre des positions de la rébellion du MFDC sur le front sud dit avoir pris le contrôle de 4 bases rebelles. La guerre est-elle donc terminée? En tout cas, les autorités sénégalaises qui affirment que ces localités sont désormais sécurisées ont invité les populations qui avaient fui le conflit à retourner chez elles. Et notre invité cette semaine est Thierry Lezin Mungala, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement congolais depuis août 2015. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes homme politique et avocat franco-congolais, né le 15 avril 1965 à Paris, en France. Vous avez fait vos études de droit à l'université Paris 12. En 2002, vous débutez votre carrière politique pendant la présidentielle aux côtés de l'ancien Premier ministre André Milongo. En 2004, vous êtes nommé conseiller spécial du président Denis Sassou Nguesso, puis élu député indépendant et entré au gouvernement ensuite comme ministre des Postes et Télécommunications. Depuis lors, vous êtes donc resté au gouvernement puisque vous en êtes le ministre porte-parole du gouvernement. Et je note aussi, M. Thierry Mungala, que vous êtes marié et père de 4 enfants. 2 journalistes sont avec nous, Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune à Bamako. Bonsoir, bonjour Ibrahim.
Bonsoir, vous allez bien?
Oui, ça va très bien, Ibrahim Koulibaly. Et nous serons rejoints dans quelques instants par Pape Sané, directeur de publication du site atlantiqueactu.com en ligne de Dakar au Sénégal. Notre premier sujet, c'est donc le Congo. Ils sont 8 à avoir déposé leur dossier de candidature pour la présidentielle du 21 mars. Selon la Direction générale des affaires électorales, après examen, la liste sera ensuite transmise à la Cour constitutionnelle pour validation. Je commence évidemment avec vous, Monsieur le ministre Mungala, notre invité. Est-ce que vous êtes satisfait ou plutôt déçu par le nombre de candidatures déclarées?
Écoutez, d'abord bonjour. Merci pour l'invitation. Je crois que l'exécutif qui est complètement hors de tout ce qui est lié aux opérations préélectorales, et nous sommes en phase préélectorale, n'a pas d'opinion sur le nombre, la qualité des candidats. Hein, je crois que ces candidats ont fait l'objet, pour ce qui concerne leur dossier, d'un examen attentif par la Direction générale de l'administration électorale, vous l'avez dit, hein, la DGAE. Dans notre processus juridique, la prochaine étape, c'est la validation, comme vous l'avez dit, de ces candidatures par la Cour constitutionnelle. Donc pour l'instant, considérant que les candidatures sont, entre guillemets, provisoirement validées, et nous attendons la validation définitive par la Cour constitutionnelle, acte qui ne devrait pas trop tarder, puisque comme vous le savez, le début de la campagne électorale est fixé au 5 mars.
Oui, Donc, et d'ici là, il va falloir qu'on sache exactement qui est candidat ou pas. Je posais la question, Monsieur le Ministre, parce que en 2016, lors de la présidentielle, on avait quand même 10 candidatures déclarées, avec 9 retenues. Et cette fois, il y en a 8 déclarées. Donc, peut-être à l'issue de l'examen de ces candidatures, on enregistrera moins de candidats, moins de 8 candidats. Et aussi, cette question est relative au fait que il y a beaucoup d'absents, notamment le leader de l'opposition, Tatima Biala, qui ne participe pas à ce scrutin.
Bon, comme je vous l'ai dit, donc il ne m'appartient pas de juger du nombre et de la qualité des candidats. Hein, je crois que c'est un acte totalement libre et discrétionnaire de chacun ou chacune des citoyens qui décident de concourir.
Mais est-ce que vous diriez que cette fois, l'élection est moins courue que la précédente, par exemple ?
Non, ça n'a... Écoutez, qu'on passe de 8 ou à 9, ça ne change pas grand-chose. Si on avait dit on passe de 8 ou 9 à 2 ou 3 candidats, c'est là où la proportion pourrait effectivement entraîner le type d'analyse que vous venez de faire. Pour l'instant, 8 9, ça ne change pas grand-chose à la nature du scrutin.
L'absence aussi du leader Tatima Biala ne change pas grand-chose.
Bah écoutez,
l'absence du leader de l'UPADS.
Je crois que là également, vous n'êtes pas ici au Congo et dans les subtilités politiques locales. Il est possible que pour des raisons diverses, le président Tatima Biala, donc chef de file de l'opposition, ait décidé de ne pas concourir là pour consolider ses forces pour l'élection législative. Il faut que je vous précise à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre, que dans notre constitution, le statut de chef de l'opposition ne découle pas de l'élection présidentielle, mais il découle de l'élection, des élections législatives. C'est-à-dire que M. Tatima Biala, de par la Constitution et la loi, est chef de l'opposition à l'issue des élections législatives de 2017, parce que le chef de l'opposition est le chef du groupement le plus nombreux hors de la majorité présidentielle et parlementaire.
Il a 8 députés, je pense.
Possible. Oui, il est possible que pour des raisons stratégiques, mais ça, il faudrait lui poser la question, qu'il ait décidé plutôt de concentrer ses efforts sur cette élection-là, parce que là sont les enjeux en termes d'ancrage institutionnel, en termes de moyens pour faire exister l'opposition et faire exister les groupements de partis qui sont autour de lui, puisque le statut de chef de l'opposition amène un certain nombre de moyens matériels et logistiques qui lui permettent
de détailler. Mais sauf que M. Mungala, vous semblez avancer la thèse d'un repli tactique pour mieux rebondir aux législatives, mais le parti de Tatima Biala a déclaré qu'il remettait en cause l'impartialité de ce scrutin et déclare « Cette décision trouve son fondement dans l'impréparation de cette échéance par le gouvernement qui, 5 ans durant, n'a pas été capable, dit encore l'UPADS, d'améliorer substantiellement le système électoral pour en garantir la crédibilité et la sincérité des résultats. » Donc, la non-participation du candidat à l'opposition est plutôt liée à un manque de crédibilité du processus.
Bon, mais écoutez, encore une fois, il y a loin entre les déclarations, parce qu'il faut bien qu'il justifie sa position vis-à-vis de sa base, vis-à-vis de ses électeurs, parce qu'il est toujours curieux de ne pas participer à l'élection présidentielle, et puis peut-être l'année prochaine, dans les mêmes conditions, participer aux élections législatives. Je ne sais pas. C'est à lui qu'il faut poser la question sur cette apparente contradiction. Moi, je note simplement que son statut découle des élections législatives et j'ai fait une analyse. Je ne suis pas dans le secret des délibérations de ce parti, l'UPADS, ni du groupement d'opposition.
Mais sur les arguments avancés par l'UPADS, sur le fait que le processus ne sera pas transparent.
L'UPADS a participé à la concertation qui s'est déroulée à Madingou. Il a donné ce parti une opinion. L'opposition dont vous parlez, c'est-à-dire les groupements qui sont rassemblés autour de Tatima Biala, du président Tatima Biala, ne partagent pas tous cette opinion, puisque M. Brice Parfait Kolela, qui lui est bel et bien candidat parmi les 8 dont vous parlez, est le numéro 2 ou le numéro 3 de cette opposition institutionnelle. Et il se présente bel et bien. Vous voyez donc que chacun a une stratégie, chacun a un positionnement dans le même groupement. c'est le même groupement dont il est le chef de file. Donc, je ne crois pas qu'il soit intéressant de s'attarder sur les raisons profondes qui justifient la position de M. Tsatima Diala et de son parti. Je dis simplement que, pour ce qui nous concerne, l'ensemble des forces politiques qui comptent au Congo ont participé à la concertation de Madingou, et ce processus qui est en train de se déployer au moment où nous parlons découle des conclusions dont certaines ont fait consensus et d'autres pas, découle de la concertation de Madingou. Maintenant, le choix profond de M. Tsatima Diala, je crois que ça le regarde.
Il y a aussi le fait que d'autres pensent que parmi les 8 candidats déclarés, il y en a qui sont en réalité des alliés du pouvoir pour donner l'impression que le scrutin boycotté par le leader de l'opposition est quand même couru et est crédible. Que répondez-vous à cela ?
Écoutez, j'aimerais bien que l'on cite nommément les candidats dont vous parlez. Qui est un allié du pouvoir ? J'aimerais comprendre qui est un allié du pouvoir. Je ne sais pas. Je ne partage pas cette allégation, à moins que vous ayez un nom, mais il faudrait poser.
Je n'ai pas de nom, mais on connaît qui sont les candidats, que ce soit Dev Mafula, que ce soit Mathias Zon ou encore Guy Brice Parfait Kolela, dont vous venez de parler.
Oui.
Voilà, mais vous êtes au courant qu'il y a quand même cette accusation de.
Concernant
certains candidats.
Vous me l'apprenez. Là, vous me la prenez. Non, si vous parlez du jeune Dev Mafula, par exemple, c'est un jeune talentueux, manifestement, qui a décidé d'annoncer depuis des mois, des années, une année ou deux, je crois, qu'il allait être candidat. Il a rempli les conditions, et bien tant mieux pour lui. Je crois qu'il n'est pas tendre avec le pouvoir, hein, quand vous lisez ses déclarations, vous suivez dans les médias ses déclarations. Vous parlez de Mathias Zon, ancien ministre des Finances, il y a 8 ans déjà. Mathias Zon fait des déclarations à l'emporte-pièce quasiment tout le temps à la tête d'un autre groupement d'opposition encore plus radical que l'opposition institutionnelle. Monsieur Parfait Kolela, je vous ai dit qu'il était membre de l'opposition institutionnelle. Il a quitté le gouvernement en 2015. Il a fait partie de l'élection de 2016 avec, disons, des arguments et une posture qui faisait de lui un candidat extrêmement hostile à la majorité en place. Donc je ne sais pas. Qui partage cette opinion.
Donc vous estimez qu'il y a de véritables opposants qui vont être face au président Sassou Nguesso en mars prochain.
Mais je n'ai pas jugé de leur qualité d'opposant. Ils se prononcent eux-mêmes sur leur positionnement, ils indiquent qu'ils sont des opposants. Je crois qu'il faut les laisser déployer leur campagne et voir dans quelle mesure ils vont se situer à tel ou tel niveau de la sphère politique, opposition modérée, opposition radicale, etc.
Mais quand même, l'absence de l'opposition, du chef de l'opposition parlementaire n'est pas un peu gênant pour vous ? Est-ce que ce n'est pas un peu embarrassant ? Est-ce que ça ne remet pas un peu en doute la crédibilité du processus auquel ne participe pas la principale figure de l'opposition ? Est-ce que vous ne regrettez pas un peu son absence ?
Mais je vous ai dit que je ne peux pas porter de jugement sur les positionnements des uns et des autres. La candidature est libre, ouverte, elle fait l'objet d'un filtre avec des conditions. Monsieur Tsatima Diala n'a pas souhaité se présenter.
De même, Jean-Marie Moukoko, troisième en 2016, qui est toujours pas libre de ses mouvements.
Jean-Marie Moukoko, dont vous parlez, aujourd'hui ne peut pas se présenter, tout simplement parce qu'il est aujourd'hui un prisonnier qui a été condamné au cours d'un procès. Donc, il ne pouvait mécaniquement pas se présenter. Parlons donc de l'opposition.
Et vous pensez que malgré ses absences, on aura un scrutin inclusif pour vous, le scrutin inclusif ?
Le scrutin sera forcément inclusif puisque tous ceux qui se sont présentés représentent l'ensemble du spectre politique congolais. Nous avons là donc le candidat de la majorité présidentielle, donc le président Denis Sassou Nguesso. Nous avons un jeune qui vient là tenter sa chance et c'est très bien parce que c'est toujours bien de voir des jeunes avoir cette audace et avoir ce courage de se lancer et de se mesurer sur un scrutin aussi important. Nous avons des gens de la société civile, comme l'ex-colonel Onyangé, qui aujourd'hui est un pasteur de son État. Nous avons donc M. Kolela, qui est le numéro 2 de l'opposition derrière M. Tsatima Diala. Nous avons un ancien ministre des Finances d'expérience,
Mathias Zon.
M. Mathias Nzon. Nous avons Monsieur Moussi Nguari, qui est un député qui a une bonne base dans cette
Monsieur Onyango est quand même l'ancien aide de camp du président Sassou Nguesso.
Mais il est surtout pasteur. Il est surtout aujourd'hui pasteur. Et il a été l'ancien aide de camp jusqu'en 1992, donc il y a 28 ans, une génération. Donc je crois que c'est une reconversion d'abord vers une fonction sacerdotale, pasteur, qui fait que ce qu'il a été avant est très 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 loin de nous.
Merci. Donc vous estimez pour vous que l'élection est inclusive. Voyons voir ce qu'en pense Ibrahim Koulibaly. Vous êtes là, Ibrahim ?
Oui, je suis là.
Voilà, sur cette composition hein, de la première liste de candidats à la présidentielle au Congo, il y en a 8. Grand absent, le leader de l'opposition, Tati Mabiala, mais jusque-là, cela ne semble pas être un problème, selon le ministre porte-parole du gouvernement congolais.
Oui, en partie, je partage l'avis du ministre, hein, parce qu'une candidature à une élection présidentielle, quoi qu'on dise, est libre et volontaire. Donc, quelqu'un ne peut pas être candidat malgré lui-même. Donc, sur ce plan, vraiment, je le rejoins parce que s'il y avait une opposition...
Mais l'opposition affirme qu'elle ne participe pas à cette élection parce qu'elle n'a pas confiance à ce processus. Elle ne croit pas en la crédibilité et à la transparence de l'élection.
En tant qu'observateur politique, on est habitué à ce genre de discours en Afrique. On ne fait jamais confiance aux structures qui organisent les élections. C'est pour préparer d'éventuelles contestations. Donc, c'est dommage, hein, c'est toujours le même scénario. Donc, en Afrique, il est temps de sortir de cela. Si c'est l'administration, on ne fait pas confiance. Si c'est des structures indépendantes, on ne fait pas confiance. Et finalement, qui va organiser l'élection ? Moi, j'allais contredire le ministre si, effectivement, le gouvernement avait pris des mesures empêchant l'opposition d'être candidat. Mais si c'est de façon volontaire, sur la base des suspicions, il décide de ne pas être candidat, c'est vraiment dommage, ça c'est la politique de la chaise vide. Mais bon, heureusement que selon les propos du ministre, il y a d'autres candidats quand même qui concourent au suffrage. Donc moi je pense qu'un pays comme le Congo, 8 candidats, ce n'est pas négligeable, hein, parce que 8 candidats à une
déclarés
élection,
pour l'instant.
Déclarés pour l'instant, donc ce n'est pas négligeable. Parce
Merci.
Que moi, de mon point de vue, analyse même, plus il y a plus de nombre de candidats, ça banalise un peu la fonction présidentielle. Parce que chez nous aussi en Afrique, les gens se lèvent un beau matin, tout le monde pense qu'il est présidentiel. Ça fait beaucoup de dépenses pour l'État, pour des résultats après contestés, ça crée beaucoup de conflits.
Il y a des cautions qui sont payées.
Oui, les cautions, mais les cautions comparées aux dépenses, parce qu'il faut le nombre de bulletins, s'il y a un premier tour, un deuxième tour.
Et pour le Congo, donc, ça fait, il y a quand même 25 millions d'euros payés par chaque... 25 millions, pardon, de francs CFA, payés par chaque candidat.
Oui, mais considérer à cela aux dépenses qu'on met dans la confection des bulletins, la composition des bureaux de vote, c'est vraiment, je pense que c'est négligeable. Hein.
Merci.
Bon, mais l'essentiel, je me réjouis quand même qu'on arrive à tenir les élections. Ça, c'est le plus important.
Merci beaucoup, Ibrahim Koulibaly. Pape Sané, vous partagez l'avis d'Ibrahim sur cette élection de mars prochain au Congo ? Allô, Pape ? Est-ce que Pape est avec nous ? Manifestement, non. On va peut-être... oui, on me fait signe pourtant qu'il est là. Pape, vous m'entendez ? Il ne nous entend pas. Monsieur le ministre, on va revenir hein, dans quelques instants sur les propos de l'épiscopat.
Allô, allô.
Oui, Pape, vous êtes là ?
Enfin, moi, je suis là déjà,
Bon, monsieur le ministre. Oui, je pensais entendre Pape. Pour le moment, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre débat sur les prochaines élections législatives en République du Congo.
Président.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha. Le débat.
Suite du débat à BBC Afrique Africa Radio avec notre grand témoin cette semaine, Thierry Mungala, ministre porte-parole du gouvernement du Congo. Deux journalistes sont avec nous, Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune à Bamako au Mali, et le journaliste sénégalais Pape Sané, directeur du site atlantiqueactu.com, est également avec nous. Vous pouvez écouter cette émission sur nos sites internet podcasts bbcafrique.com et africaradio.com et n'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires et avis sur la page Facebook de l'émission facebook.com/débat bbcafricaradio. Et j'espère que pour le moment Pape Sané est avec nous, il nous a rejoint. Bon, pas encore, on ne l'entend pas. Je reviens avec vous, monsieur le ministre Mungala. Vous parliez tout à l'heure du fait que l'opposition, notamment le leader de l'opposition parlementaire, Tati Mabiala, ne participe pas à cette élection, peut-être par pure stratégie, mais je mentionnais qu'ils sont partis avec des doutes sur la transparence du scrutin. Et il n'est d'ailleurs pas le seul, puisque l'épiscopat congolais a également, par voie de communiqué, exprimé quelques réserves sur ce scrutin.
Bon, il faut noter que les évêques sont des citoyens congolais qui ont tout à fait le droit d'exprimer une opinion. Ce que nous avons déploré dans la déclaration des évêques, c'est d'abord le moment choisi. Ce n'est pas au moment où un processus est en pleine maturité, en plein déploiement, qu'il faut faire ce type de déclaration, parfois dans le ton d'une grande brutalité. Deuxièmement, la forme. C'est-à-dire le fait de faire ce type de communiqué, d'y inclure un peu comme à boire et à manger, c'est-à-dire mélanger ce qui relève du processus électoral avec des choses qui n'ont rien à y voir, y compris à dire que l'opinion remet en cause l'existence même de la Covid-19 au Congo. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez lu cette déclaration, mais cette déclaration était une déclaration un peu fourre-tout. Donc oui, ils ont exprimé une opinion. Nous regrettons, comme je l'ai dit, la forme, regrettons une partie du fond et surtout un certain nombre de contre-vérités, parce que vous ne pouvez pas avoir une déclaration qui dit qu'il y a absolument aucun effort qui a été fait ou qui serait fait par les pouvoirs publics et les autorités compétentes pour améliorer le processus électoral, tout en vivant dans un pays où, pendant que vous écrivez ce genre de choses, eh bien justement les listes électorales sont révisées. Et j'aurais préféré personnellement, et le gouvernement aurait préféré, que les évêques, dans leur rôle sacerdotal et citoyen, fassent le nécessaire pour demander à leurs fidèles, aux catholiques, aux chrétiens, eh bien, d'aller vérifier si leur nom est sur les listes électorales.
D'accord, vous défendez que la liste électorale est en pleine révision, mais qu'en est-il de la transparence de ce scrutin et ces conditions d'organisation? Les évêques affirment, par exemple, que les Congolais ont peur, parce qu'à chaque scrutin est souvent suivi de violence.
Moi, j'appelle tout ça des conjectures, des allégations et une anticipation sur une réalité qui n'est pas aujourd'hui palpable sur le terrain.
En 2016, ça l'était. Vous êtes d'accord au moins, M. Mungala?
2016, c'est 2016. Nous sommes en 2021. Le scrutin, en tout cas dans sa phase de préparation, montre une grande sérénité depuis la concertation de Madingou dont j'ai parlé, jusqu'à présent. À la limite, nous estimerions presque que ce sont les évêques qui ont quelque part créé une psychose, parce que je n'apercevais pas jusqu'ici quelque peur que ce soit. Je suis peuple aussi, je discute avec des citoyens. Oui, les années précédentes, les scrutins précédents, 2009, qui était un scrutin paisible, n'en déplaise à tout le monde, 2016, qui a été un peu plus heurté, eh bien, il y avait des psychoses. 2009, parce qu'on n'était pas très loin, malheureusement, des événements malheureux qu'on avait connus à la fin du XXe siècle. Il y avait encore cette psychose dans la population. 2016, je ne reviens pas dessus, mais là, il n'y a rien que j'aperçoive qui pourrait correspondre à une peur des populations. Parce que la peur dont vous parlez se manifeste de manière concrète et physique. Généralement, quand il y a un scrutin ou qu'il y a quelque chose de ce genre, des gens les plus apeurés, justement, quittent Brazzaville, quittent la ville. Il n'y a aucun phénomène de ce genre aujourd'hui.
D'accord. Donc vous estimez que le prochain scrutin présidentiel au Congo sera transparent, crédible et apaisé ?
Le scrutin sera transparent parce que les conditions de la transparence sont remplies. Une commission électorale indépendante composée de tous les courants politiques. Vous parlez par exemple de l'absence du président Tati Mabiala du scrutin. mais les représentants de son groupement d'opposition sont bel et bien membres des différentes commissions et des différentes formations internes à la Commission nationale électorale indépendante. Donc, ces commissions permettent non seulement d'assurer un suivi paritaire de la révision des listes, les listes électorales dont la cessation de la révision était pour le 10 février, on l'a prolongé de quelques jours. Ces représentants paritaires de tous les courants, y compris de la société civile, sont présents à différents niveaux, notamment dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Moi, je n'aperçois encore une fois pas de ferment, contrairement à la déclaration de nos évêques, de ferment, de soupçons, d'absence de transparence.
Donc, il y a tous les gages, vous donnez tous les gages de transparence à ce scrutin, et quels sont-ils ?
Je n'ai pas donné de gages, c'est la loi qui donne des gages. C'est la loi qui donne des gages. Nous, je vous le répète, l'exécutif est totalement étranger au déroulement de toutes les opérations préélectorales, électorales et post-électorales. La seule intervention de l'exécutif dans le processus, je vais vous l'indiquer de manière tout à fait précise, c'est le moment où la commission électorale, après avoir compilé les résultats après le vote, donc après le 21 mars, les consolide et les transmet tels quels au ministre de l'Intérieur, qui, lui, doit immédiatement les proclamer. Immédiatement. Je dois d'ailleurs tordre le cou à une légende que je qualifierais de légende urbaine, parce qu'en 2016, les résultats ont été proclamés en pleine nuit. Alors, qu'aurait-on dit si, recevant les résultats autour de 23h ou minuit, le ministre de l'Intérieur avait attendu le matin pour les proclamer? La loi oblige l'exécutif, à travers le ministre de l'Intérieur, à les proclamer dès qu'il les reçoit. Il les a reçus en fin de soirée, il les a proclamés.
Merci beaucoup.
Je crois même qu'il y a d'autres pays, j'ai l'exemple du Bénin, toujours en l'année 2016, où les résultats ont été proclamés en pleine nuit.
Merci, monsieur Thierry.
Personne n'a parlé d'absence de transparence.
Merci, Thierry Mungala, pour votre point de vue, et nous allons marquer une pause.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
Merci de nous rejoindre pour la suite du débat BBC Africa Africa Radio avec notre invité cette semaine, Thierry Mungala, ministre porte-parole du gouvernement du Congo. Deux journalistes sont avec nous, Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune à Bamako au Mali, et le journaliste sénégalais Pape Sané, directeur de publication du site atlantiqueactu.com est également avec nous. Et n'hésitez pas à nous faire part de votre point de vue et de vos commentaires sur la page Facebook de l'émission facebook.com/débat BBC Africa, l'émission que vous pouvez retrouver également sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com. Et nous parlons du Mali à présent. Suspicion, méfiance et divergence entre pouvoir de transition et classe politique, toutes tendances confondues, sont-elles désormais inscrites dans le livre d'histoire politique du pays? Après des mois de tensions entre les deux parties, le Premier ministre de transition a discuté mercredi pendant 4 heures avec la classe politique malienne qui accusait le nouveau pouvoir de l'exclure du jeu politique et de vouloir gouverner seul. On commence avec vous, notre confrère qui est au Mali. Monsieur Koulibaly, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Voilà, dites-nous, le respect, toutes les craintes et les divergences qui étaient jusque-là observées ont-elles été aplanies avec cette rencontre entre le Premier ministre et la classe politique malienne?
Ce serait trop tôt de crier victoire parce qu'effectivement, le mercredi dernier, le Premier ministre a reçu une bonne partie de la classe politique, parce que ce n'est pas l'ensemble de la classe politique. C'est une bonne partie de la classe politique qui a répondu présent à l'invitation de M. le Premier ministre. C'était pour briser en tout cas le mur de glace. Depuis la prise de pouvoir par la junte militaire, effectivement, encouragé en cela par certains hommes politiques, la société civile et tout ce qui tourne autour des militaires,
Donc, ils avaient cru bon nécessaire d'exclure quand même les hommes politiques, pensant que tout ce qui est arrivé était la faute aux hommes politiques. C'est vrai, ils ont leur part de responsabilité. Mais quelques mois après la mise en place des structures de la transition, on se rend compte que les choses ne bougent pas à un rythme souhaité, qu'il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de méfiance. Donc moi, je pense que les tournées du président de la transition, M. Mbadiou, en France et dans certains pays africains, je pense qu'il est revenu avec cette recette qui consiste quand même au dialogue, à l'ouverture et à aller un peu vers la classe politique pour une décrispation. Je pense qu'il a
donné des conseils. Est-ce que c'est aujourd'hui chose faite?
Oui, c'est bon. Non, c'est un début de processus. C'est un début. C'est pas comme une baguette magique. C'est pas en une seule rencontre que le Premier ministre peut tout dégager comme si de rien n'était. Non, c'est un début. C'est un processus, en tout cas, qui a été salué. C'est un début. Le fait que de plus en plus, en tout cas, la junte, selon le gouvernement, fasse un clin d'œil à la classe politique. Parce qu'on parle des réformes politiques et institutionnelles. Donc on ne peut pas les faire sans la classe politique.
Notamment des réformes électorales, voilà. Après la dissolution de la commission électorale, donc, pour que l'élection soit plus inclusive.
À l'évidence qu'on ne peut pas les faire sans la classe politique. Donc le Premier ministre, de façon pragmatique, a jugé bon de rencontrer la classe politique, et selon certains hommes politiques, donc c'est une première. Donc ils s'attendent à ce que ça soit un cadre qui soit institué.
C'est ce que d'ailleurs le Premier ministre Mokhtar Wan a promis, qu'il y aura des concertations régulières entre lui et la classe politique. Et il a déclaré qu'il faudrait un consensus très fort afin de permettre que dans un climat apaisé, la transition puisse réaliser toutes les réformes voulues. Maintenant, concernant ces réformes, justement, sur les réformes politiques et électorales, est-ce qu'aujourd'hui, les deux camps sont disposés à en discuter et permettre que l'élection soit la plus inclusive possible et que la transition se termine dans de bonnes conditions au terme des 18 mois ?
Cette préoccupation majeure est partagée par l'ensemble de la classe politique et tous les acteurs en France, hein, parce qu'aujourd'hui, le pays est dans une situation qui appelle à l'union, en tout cas sacrée, des cœurs et des esprits. Donc c'est ce processus-là qui n'a pas été amorcé à temps, mais mieux vaut tard que jamais. En tout cas, le geste du Premier ministre Le Mokrebi a beaucoup commenté et les gens y voient quand même un début de solution, un début de remise ensemble des Maliens pour aller aux élections. Parce que dans ces conditions, quand on partait aux élections, c'était difficile de dire ce qui allait se passer. Parce que la classe politique avait été carrément écartée, totalement ignorée. Et la classe politique aussi s'était braquée. Parce qu'on ne peut pas faire des absents et des réformes à leur nom alors qu'ils ne sont pas impliqués dans le processus. Donc
merci.
Maintenant, ils reviennent dans le jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que vraiment, que les gens se mettent ensemble, que les conditions soient acceptées par tous pour préparer des bonnes élections afin de sortir de façon honorable de la transition.
Merci, oui. Ibrahim. Monsieur le ministre Mungala, sur ces rapprochements, ce début d'apaisement entre le Premier ministre ou le gouvernement de transition et la classe politique?
Bon, mais écoutez, d'abord, je ne peux pas porter de jugement, vous le comprendrez aisément, sur la politique intérieure du pays frère qu'est la République du Mali, la République sœur du Mali. Par contre, je peux me permettre de souhaiter qu'effectivement, le premier pas qui a été accompli par le Premier ministre de transition en rassemblant la classe politique me paraît aller dans la bonne direction. Quel est l'objectif d'une transition? La transition, d'abord, de manière étymologique, littérale, c'est passer d'un état à un autre avec une espèce de phase intermédiaire un peu lente, c'est-à-dire qui permette de passer de cet état qu'on ne voulait peut-être plus ou qui n'était plus tenable, c'était la situation antérieure, vers un état souhaitable qui consisterait à dire qu'on doit installer au terme d'élections libres et transparentes une administration, un gouvernement, des institutions qui soient acceptées par tous. C'est, je crois, un premier pas qui vient d'être accompli par le Premier ministre. Il y en aura certainement d'autres. Je crois que la transition, il lui reste pour accomplir l'ensemble de son office
environ 14 mois. Donc je pense que d'autres étapes, comme l'a dit notre ami Monsieur Koulibaly depuis Bamako, je pense que d'autres étapes interviendront. Maintenant, je ne porte pas de jugement sur les positionnements politiques des uns et des autres qui sont de la politique intérieure malienne, mais nous souhaitons que ce pays, ce grand pays, le Mali, cette grande civilisation retrouve sa quiétude, d'autant qu'en plus de la transition, il y a, vous le savez, j'ai pas besoin de revenir dessus, le principal danger, ce n'est ce pas les querelles politiciennes, le principal danger, c'est la désintégration de l'État malien par rapport aux forces que je qualifierais de centrifuges, qui aujourd'hui, Dieu
l'insécurité
merci...
L'insécurité avec les attaques
ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et je crois que on doit aller le plus possible vers le consensus pour ensuite permettre aux institutions qui vont s'installer, qui seront légitimées, eh bien, s'occuper du véritable problème du Mali, c'est-à-dire la partition de fait du pays et la reconstruction
de la paix.
La possibilité du Mali retrouver la paix.
Merci, monsieur le ministre Mungala. Pape Sané, enfin, on peut vous entendre. Vous êtes là, Pape ?
Ben oui, je suis en ligne.
On a eu du mal tout à l'heure. Alors, sur cette rencontre entre la classe politique, une partie de la classe politique et le Premier ministre malien, est-ce que pour vous, c'est un retour de la confiance ?
Ben, on pourrait l'interpréter ainsi, hein. Mais sauf que, comme l'a dit tout à l'heure M. Koulibaly, c'est une partie de l'opposition malienne qui a accepté d'aller à la table de négociation. Bon, maintenant, à mon avis, moi, je suppose que pour que les choses soient encore plus claires, il faudra que le gouvernement de transition se définisse clairement par rapport à une éventuelle candidature de l'un ou de l'autre de ses membres, des membres de la transition.
En principe, ils en sont exclus. Les membres de la transition n'ont pas le droit de participer au prochain scrutin présidentiel.
Oui, mais vous savez, en fait, c'est dans les textes. Mais nous rendons compte davantage que maintenant, en Afrique, les textes, ce sont ceux-là qui sont au pouvoir, qui sont les premiers à les tordre. Donc, ce qui fait, moi, à mon avis, c'est que cette transition, surtout ses dirigeants, tiennent un discours vraiment très clair et sans équivoque qu'aucun membre de la transition ne peut être autorisé à participer à ces élections. Si on obtient cet acquis, je suis sûr que le reste de l'opposition qui rechigne à rejoindre justement cette table de négociation fera tout pour y participer. Parce que, en fait, c'est un acquis par rapport à ces quelques mois, à ces quelques années que le Mali et la société politique malienne ont eu à subir du fait de certains manquements qui ont abouti à l'éviction du président Ibeka.
Merci.
Je crois qu'aujourd'hui, avec une forte démocratie comme l'était le Mali, parce que quand même ils ont eu quand même des alternances, ça, il faut le reconnaître, il faut les en féliciter. Je crois que l'instrument constitutionnel est là, l'instrument légal est là. Ce qu'il faudrait, c'est que juste que les acteurs parle le même langage et qu'on mette au-dessus de tout l'intérêt du Mali.
Merci beaucoup. Monsieur Koulibaly, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour reconstruire cette confiance qui avait été rompue entre la classe politique et le gouvernement et le pouvoir de transition ? Vous avez dit que cette rencontre, c'est un premier pas, mais comment consolider et renforcer et reconstruire cette confiance ?
Je m'inscris en droite ligne des propos de mon confrère sénégalais parce qu'aujourd'hui, la confiance est-elle rompue de façon très grave entre les deux camps. Parce que quand les militaires sont arrivés au pouvoir, il y a eu beaucoup de choses parce que tout ce qui n'était pas arrivé à émerger sur le plan politique au Mali se sont accrochés aux militaires pour carrément enfoncer la classe politique. Et d'autres opportunistes de tout acabit aussi se sont collés, en tout cas à la junte, toujours pour écarter la classe politique. Donc, on a pensé nécessaire de mettre carrément la classe politique à côté et la mise en place des différentes structures a montré cela. Donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte des limites de cette pratique et le Premier ministre est revenu, en tout cas en arrière, pour faire un clin d'œil à la classe politique. Ça a plu à l'opinion, ça a plu à la classe politique et je pense que le gouvernement qui a initié cette démarche aussi est très content. Donc, aujourd'hui, c'est un départ, c'est un nouveau départ.
Mais comment consolider ce qui est un départ en une situation définitive, c'est-à-dire de confiance permanente entre les deux camps, en deux mots, s'il vous plaît?
C'est qu'il faut, comme l'a dit mon confrère sénégalais, il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on essaie de torpiller les textes, il faut qu'on rassure la classe politique, comme c'est stipulé dans la charte, les membres de la transition ne peuvent pas être candidats. Il faut que cela soit clair. Un. De deux, il faut qu'on donne la bonne information comme quoi les élections vont se tenir à date. Et trois, qu'on rassure que personne ne sera exclu du processus électoral. Et quatrièmement, que les réformes vont se faire avec l'ensemble de la classe politique, parce que les réformes institutionnelles et politiques gèrent la vie des partis politiques et des hommes politiques. Donc on ne peut pas gérer les structures qu'ils ont créées, qui font fonctionner les partis politiques et leur propre vie à leur absence.
Merci.
Donc si la classe politique a ces assurances-là, moi je pense que vraiment la transition va repartir sur de bons pieds, les élections vont se tenir dans un climat très apaisé et on aura quand même des élections acceptées par tout le monde. Donc aujourd'hui, la classe politique a besoin d'assurances. Donc il ne faut pas, parce que monsieur le ministre a parlé aussi de la situation sécuritaire. Donc en plus de tout ce qu'il y a comme problème sécuritaire, tout ce qu'il y a comme problème avec les syndicats, moi je pense que ce serait intelligent de ne pas avoir de problème avec les politiques pour une bonne marche de la transition.
Donc consensus politique pour se concentrer aux priorités, la lutte contre l'insécurité et également le front social qui chauffe. On va poursuivre, messieurs, sans transition avec notre troisième sujet en parlant du Sénégal où l'armée dit avoir pris le contrôle de 4 bases de la rébellion du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance dans le sud du pays à l'issue d'une opération armée lancée en début janvier dernier. Et c'est avec vous, Pape Sané, on va commencer. Le conflit dure quand même depuis les années 80 avec l'abbé Diamakoun Senghor, suivi d'une longue période de ni paix ni guerre. À quoi aujourd'hui l'armée sénégalaise doit-elle ce succès face à la rébellion?
Écoutez, je me réjouis déjà de faire partie de votre plateau. En fait, pour parler de succès, moi je dirais que en fait, ce succès arrive à un moment où, et c'est justement ce qui pousse les Sénégalais et surtout les observateurs à se poser des questions. Ce succès arrive au moment où une bonne partie du mouvement des forces démocratiques de Casamance avait officiellement tendu la main au pouvoir pour aller vers des négociations en vue d'une paix définitive. En fait, c'est ce qui assombrit un peu cette victoire de l'armée sénégalaise. Mais pour toujours parler de cette victoire, il faut quand même reconnaître que pendant de longues années, surtout avec l'avènement du président Macky Sall, on avait parlé d'une certaine accalmie. Les gens se sont plus à parler d'une accalmie que le président avait réussi à instaurer. Moi, j'ai fait partie de ceux qui avaient tout le temps soutenu qu'il n'y avait pas d'accalmie. Il n'y avait pas d'accalmie dans la mesure où le pouvoir, en négociant avec une partie du MFDC, c'est-à-dire celle-là dirigée par Salif Sadio, et en ignorant les autres factions, il ne pouvait y avoir d'accalmie. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? L'État avait posé comme condition, ou bien les facilitateurs avaient posé comme condition, qu'il fallait un regroupement des différentes factions. Alors qu'on sait que ces différentes factions sont opposées depuis plus de deux dizaines d'années, sont opposées pour des questions de leadership et tout ça. Alors, nous, on est de ceux, comme je l'avais dit, on est de ceux qui avaient pensé que cette accalmie était due à un processus, c'est-à-dire à un processus de vieillissement de leadership du MFDC. Ces chefs qui étaient là, jeunes soldats, depuis 1982, pour la plupart aujourd'hui...
Vous voulez parler de l'essoufflement du mouvement, puisque je disais que ça fait depuis quand même les 82 que ce conflit a commencé.
Voilà, justement. Donc nous, on avait pensé, on avait tenu des conférences dans ce sens, qu'il fallait faire attention à cette accalmie dont on nous servait. Il s'agissait plutôt d'une fin de processus et que maintenant, c'était le moment où il fallait mettre les dispositions pour négocier concrètement. Parce
mais
que
le gouvernement sénégalais a choisi de ne pas négocier, étant donné qu'il n'y avait ni paix ni guerre, et a choisi de mener cette opération. Est-ce que vous pensez que finalement ça met un terme définitif à cette guerre, ou peut-être les combattants dont on ne sait pas où ils se trouvent aujourd'hui vont peut-être se reconstituer et reprendre les armes contre l'armée sénégalaise?
Oui, madame, il faut nuancer. Le gouvernement n'a pas rejeté l'idée de négociation. Le gouvernement a négocié avec une partie du MFDC au niveau de Rome, avec Santé Gio à Rome, avec la faction qui est favorable à Salif Sadio. Mais aujourd'hui, cette partie qui tendait la main pour les négociations, c'est justement cette partie qui a été attaquée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut craindre, comme vous l'avez dit dans votre question, qu'est-ce qu'il faut craindre avec la dispersion, justement, et la mainmise sur ces bases qui étaient, pour vous le rappeler, qui ont été un consensus obtenu à partir des accords de Founioune 1, Founioune 2 sous le pouvoir du président
Abdoulaye Wade.
Ces bases avaient une reconnaissance de l'État du Sénégal dans la mesure où les éléments appartenant au MFDC devaient se cantonner dans ces bases, et que même dans certaines formules, il était prévu que ce soit peut-être l'État qui les aide dans la logistique, qui leur donne à manger et tout ça.
Pour terminer, Pape Sané, comme on n'a pas beaucoup de temps, vous voulez dire que rien n'est terminé, rien n'est joué en Casamance?
Oui, ma crainte, en fait, c'est aujourd'hui, ces bases, l'armée les a démantelées. Ces soldats qui étaient, ils sont où? Aujourd'hui, moi, ma crainte, c'est de voir maintenant ces hommes se regrouper ailleurs, se donner une force ailleurs pour justement revenir encore installer l'insécurité dans cette zone qui est quand même une zone très névralgique.
Merci beaucoup. Monsieur le ministre, quand vous entendez les propos de notre confrère Pape Sané, on a l'impression que malgré les victoires militaires, il va falloir peut-être que les discussions et le dialogue se poursuivent entre le gouvernement et la rébellion?
Bon, j'avoue ne pas maîtriser toutes les subtilités qui ont été bien rappelées tout à l'heure par votre confrère, Monsieur Sané, qui connaît bien le dossier. Je dis simplement que peut-être que pour des raisons diverses, vous savez, un gouvernement a des informations que n'ont pas les observateurs. Le gouvernement a décidé peut-être de discuter, de négocier après tout cela en position de plus grande force. J'imagine qu'à un moment donné, la société sénégalaise, tant la classe politique que la société civile, qui nous ont habitués, qui nous habituent au quotidien à une gestion pacifique de tous les conflits, et bien qu'à un moment donné, le gouvernement fera les pas nécessaires qu'il avait déjà commencé vers la résolution pacifique.
Et définitive, peut-être.
Et définitive, peut-être. Bon, tout à l'heure, il a été évoqué, je partage quelque part cette opinion, il a été évoqué la lassitude, y compris de certains des combattants, qui pour certains ont vieilli. Vous savez, un conflit qui commence dans les années, au début des années 80, nous sommes du siècle dernier, nous sommes près de 40 ans après. Il ne doit pas être non plus commode de passer pratiquement l'ensemble de sa vie dans le maquis, hein, ou quasiment, dans des conditions parfois précaires, hein, il faut faire la chose, dans des conditions où, combattant ou pas, on doit fonder une famille ou gérer sa famille. Bon, c'est tout cela, hein, les paramètres qui ont peut-être expliqué l'enlisement de la situation et le découragement peut-être des rebelles, je ne sais pas, j'ai pas d'informations. Je dis simplement que ce que j'entends m'amène à penser, et j'en suis convaincu, le gouvernement sénégalais, à un moment donné, même en position, et surtout même en position de force, parce que c'est une position, tous les stratèges le disent, qui est quand même plus confortable pour discuter.
Rapport de force en sa faveur. Merci beaucoup.
C'est possible.
Monsieur le ministre Mungala, en deux mots, Ibrahim, sur cette offensive militaire de l'armée sénégalaise sur les positions rebelles, qu'elle contrôle désormais?
Oui, je me réjouis de cette victoire. En même temps, je suis un peu désolé parce que la reprise même des hostilités en Casamance, moi, ça me désole beaucoup parce que nous, on est nés, grandis, en tout cas, toujours en attendant les mêmes problèmes avec les mêmes cortèges de victimes. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça va être bien géré, il y avait de la calme. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui a fait que les vieux démons ont surgi pour qu'on en arrive là? Parce qu'une victoire militaire, ça suffit toujours, ça dit toujours qu'il y a des morts, il y a des mécontents, il y a des blessés, alors que c'est des gens des mêmes pays. Donc moi, je pense que, connaissant bien les attitudes du gouvernement sénégalais, du président sénégalais, ils ont toujours négocié, ils ont toujours cherché à mieux gérer. Donc s'ils sont ils en arrivent là, ça veut dire que, bon, la situation était intenable. Et moi, de mon point de vue, à un certain moment, il faut mater. Parce que, voilà, les gens s'installent dans des positions qui ne profitent qu'à eux personnellement. Ils prétendent parler au nom d'une minorité, d'une majorité, d'une région, alors que c'est pour des conforts personnels.
Merci
moi,
beaucoup.
Je pense que cette rébellion a trop duré. Et moi, je suis
d'accord avec les
Sénégalais. Il fallait y mettre fin.
Merci. En 30 secondes, Pape Sané, comment consolider la paix définitive aujourd'hui en Casamance après cette victoire réclamée par l'armée?
Ben, nous avons toujours maintenu, toujours prôné, qu'avec l'échec des politiques qui, pour la plupart, n'ont pas réussi à justement à ramener cette paix, nous avons supposé, nous avons proposé que ce soit maintenant la société civile elle-même qui s'intègre. Et puis, au-delà de la société civile sénégalaise, la société civile africaine. Parce que aujourd'hui, ce problème n'est plus un problème sénégalo-sénégalais, il demeure un problème quasiment ouest-africain, avec l'implication d'un pays comme la Guinée-Bissau ou
et la Gambie.
Éventuellement. Voilà. Et éventuellement de la
Guinée-Bissau. Qui était considéré comme les bases arrières du MFDC.
Voilà. Voilà. Qui sont tous considérés comme des pays frontaliers à la région naturelle de la Casamance. Donc, il m'est avis qu'aujourd'hui, il faut que l'échec des politiques soit constaté et qu'on mette en avant justement les propositions qui ont eu à être faites par la société civile sénégalaise et la société civile ouest-africaine.
Merci beaucoup, Pape Sané. La seule participation du président Sassou Nguesso à cette élection décrédibilise le processus.
Oh, je ne savais pas que la participation d'un candidat pouvait décrédibiliser un processus. C'est une notion curieuse. Bon, moi je dirais plutôt, pour votre information et l'information de vos auditeurs, que nous pensons, parce que c'est toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, selon que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, donc je vous donne ce point de vue-là. Certains vont dire oui, ça fait longtemps, longévité, trop long. Moi je dirais expérience.
36 ans.
Expérience capitalisée, expérience qui s'est traduite par le retour de la paix sans que nous ayons eu recours. On vient de parler d'une guerre civile tout à l'heure, ou d'une quasi-guerre civile qui s'étend depuis presque 40 ans. Nous avons connu des événements encore plus effroyables que les événements de Casamance. Le président Sassou Nguesso a ramené la paix dans ce pays sans qu'il y ait une quelconque intervention extérieure, et il a permis que l'État, qui était en train de se désintégrer, retrouve effectivement toute sa place institutionnelle. Donc cette expérience a été capitalisée. Elle est capitalisée dans le combat que nous menons contre, par exemple, la Covid-19.
Merci.
Le président Sassou a pris des mesures qui ont fait que la catastrophe annoncée partout en Afrique, Dieu merci, n'ayant pas eu lieu, elle a été aussi évitée au Congo par les mesures salvatrices. Bref, nous pensons que le mandat qui arrive, et c'est ma conclusion, excusez-moi madame, le mandat qui arrive est un mandat où l'expérience du président lui permettra de transmettre cet espoir à la jeunesse, pour le Congo d'après, le Congo de demain, tous les ferments qui ont permis cette reconstruction et qui vont permettre aux générations qui viendront, eh bien, de prendre un pays en paix, stable et réconcilié.
Merci beaucoup Thierry Lézin-Moungala, porte-parole du gouvernement congolais, d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Africa Radio. Merci à vous. Merci à nos confrères Pape Sané, directeur de publication du site atlantiqueactu.com à Dakar au Sénégal, à Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune à Bamako au Mali, réalisation à Paris Hugo Vallière, chargé de production Didier Ladislas Lando. Le débat à BBC Africa Radio est disponible sur africaradio.com et bbcafrique.com, et nous attendons vos réactions sur la page Facebook facebook.com/débat BBC Africa Radio. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir.